Salut tout le monde, bienvenue sur ce premier épisode du podcast sur les jeux de société sur Kickstarter du site geekbecois.com. C'est un premier test, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Podcast en solo, c'est la première fois pour moi, mon nom c'est Steve Tremblay ou Steve the Geek. Vous pouvez lire dans le fond mes articles sur Geekbecois depuis un petit bout maintenant. Je suis très content que les gens du site aient décidé de dire oui à ce test de podcast en solo pour parler de ce qui se passe à chaque deux semaines environ. On va voir qu'est-ce que ça donne sur la fréquence des jeux de société sur Kickstarter. C'est un test, on va voir, j'ai jamais fait ça en solo comme je disais, donc c'est moins évident qu'en groupe, donc on va faire le mieux possible pour garder ça intéressant, garder ça pas trop long non plus, j'ai hâte de voir, ce premier test va nous le dire, qu'est-ce que ça va donner au niveau des sorties. Je vais essayer de garder ça aussi vraiment au sujet de Kickstarter, donc on va pas s'étendre trop loin sur les autres sujets du domaine du jeu de société, du moins pour le moment, on verra par la suite si ça change, mais pour le moment c'est à ça que ça ressemble. C'est un premier test aussi au niveau sonore, nouvel équipement, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va s'ajuster aussi dans les autres épisodes. Laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Le but, dans le fond, la formule, c'est de parler des nouvelles campagnes, donc ce qui est sorti dans les deux dernières semaines environ sur Kickstarter. Des fois, le timing sera pas facile parce que des fois, les jeux sortent avec un financement de des fois jusqu'à 14 jours. Donc, des fois, on va peut-être manquer le bateau sur certaines campagnes, mais on va essayer quand même de couvrir le plus possible toutes les sorties intéressantes qui ont été lancées dans les dernières semaines. Quand je dis intéressant, c'est purement selon mon jugement, mais c'est pas nécessairement ce que j'ai backé de mon côté. Je vais essayer de le faire en fonction aussi de ce que je vois sur la campagne, ce qui est sur la plateforme, ce qui est populaire, etc. Puis aussi les petits coups de cœur aussi. Ça va être un peu ça la première section. On va parler des nouvelles campagnes. Par la suite, je vais essayer d'avoir toujours un ou deux sujets spéciaux. On va parler en général de la plateforme Kickstarter, de ce qui se passe dessus. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un excellent timing pour commencer à faire un podcast sur le sujet parce qu'on va parler des droits d'auteur, de comment ça fonctionne un peu rapidement, là, mais voir un peu ce qui s'est passé en parallèle avec la campagne du jeu de cartes de Game of Thrones qui a été assez impressionnante, j'allais dire drôle, mais c'est pas vrai, c'est plus drôle malheureusement avec tout ce qui s'est passé, mais on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. On va aussi parler dans cet épisode-là sur de l'importance de faire des mises à jour, une petite situation que j'ai vue cette semaine, mais que j'ai vue quand même à répétition dans les campagnes Kickstarter dans les derniers mois. On va couvrir ça aussi, l'importance de faire des mises à jour pour les backers. Et finalement, en fin d'épisode, je vais vous parler des jeux que j'ai reçus dans les dernières semaines, dans le fond, sur la plateforme. Donc, juste un petit commentaire sur la qualité du matériel, s'il y a quelque chose de spécial qui m'a surpris à la réception du jeu. Des fois aussi, je vais peut-être vous faire des petits coups de gueule sur les choses que j'ai pas aimées sur la plateforme aussi. Par exemple, une campagne qui va mal, quelque chose comme Solar City, par exemple, qui a été complètement annulée ou semi-annulée suite à une faillite des créateurs ou de la compagnie de production. Donc, je vais essayer un petit peu de vous parler de différents sujets comme ça. Mais principalement, c'est sûr que le sujet numéro un, c'est de vous parler des nouvelles sorties. Le podcast va être publié sur Geekbecois, vous allez avoir accès dès là avec une liste des campagnes duquel je parle, donc ça vous tente d'embarquer. J'aimerais faire quelques petits rappels d'usage, je vais essayer de ne pas les faire à chaque épisode, mais n'oubliez pas que Kickstarter, c'est pas un magasin, c'est pas un système de précommande, c'est vraiment un commitment que vous faites à des créateurs d'embarquer dans leur projet. Oui, en échange, ils devraient vous donner un jeu si le projet se rend à échéance, mais c'est vraiment pas ça l'entente de base. L'entente de base, c'est que vous embarquez et vous financez leur projet. Des fois, on oublie ça. Des fois, il y a des histoires d'horreur qui arrivent, il y en a plein, puis je suis sûr qu'on va en reparler dans différents épisodes. Mais il faut faire attention, c'est vraiment pas un système de précommande. Puis je vais parler des prix pendant les épisodes. Je vais, malheureusement, par souci d'efficacité, je vais surtout parler du prix des campagnes. Je vais essayer de préciser dans quel type de devis c'est. Je ne parlerai pas toujours des frais de shipping, sauf quand je vois quelque chose qui est complètement hors norme, mais dites-vous que en moyenne, pour chacune des campagnes, vous allez payer entre 10$ US et jusqu'à 25-30$ US de frais d'expédition. Ça peut être pire dans certaines campagnes limites avec des gros jeux extrêmement pesants, mais souvent, n'oubliez pas ça dans vos calculs quand vous calculez le prix que vous allez payer pour le jeu, parce que c'est des fois une mauvaise surprise aux gens quand le Pledge Manager, l'outil pour aller confirmer votre achat Kickstarter par la suite arrive. Donc, on pourra en parler plus en détail aussi, mais faites attention toujours aux frais d'expédition dans les calculs, malgré que je vais vous donner les prix sans dans la majorité des cas. On commence sans plus tarder. J'ai divisé la section nouvelle campagne en quatre sections principales. La première, c'est ce que j'appelle le premier tiers. C'est les jeux qui vraiment ont retenu mon attention au maximum dans ces deux semaines-là. Donc, c'est des jeux qui sont probablement en haut financement dans la plupart des cas, des jeux un peu différents aussi. La deuxième section, c'est les extensions et les accessoires. Donc, on va parler vraiment des titres qui sont plus des extensions et quelques éléments connexes au jeu. On va parler finalement, c'est-à-dire en troisième, on va parler des autres jeux. Donc, des jeux un peu plus petits, mais qui ont reçu mon attention par leur, retenu mon attention par leur originalité. Donc, on va parler de ça en troisième. Et dans les nouvelles campagnes, finalement, je vais vous parler des Watch Out. Les Watch Out, c'est quoi? C'est des campagnes que j'ai vues sortir, mais qui me font peur au niveau... Il y a quelque chose qui fait que j'embarquerai pas dans cette campagne-là. On va voir, il va en avoir une cette semaine dans ce sujet-là. Donc, on commence sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec la première campagne qui a retenu mon attention dans le premier tiers, c'est Cléopâtre, donc Cléopâtre and the Society of Architects, ou Cléopâtre et la Société des Architectes, qui est en fait une nouvelle édition, une réédition d'un jeu qui était paru chez Days of Wonder. Il y a quand même déjà un petit bout qui est un jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc, merci, avec un design visuel de Miguel Combra qui est vraiment, c'est un gros classique. Là. Si vous avez jamais essayé, c'est vraiment un jeu qui est très solide. Vous avez, dans le fond, c'est un jeu qui est très trois-dimensionnel. Vous avez une espèce de temple de Cléopâtre qui est conçu dans le jeu. À travers le jeu, c'est le but, c'est de construire ce temple-là, de placer les différents obélisques, les sculptures, etc. Donc, un jeu très, très intéressant qui se voit offrir ici une édition vraiment superbe. Il y a deux niveaux principaux dans lesquels vous pouvez embarquer. Donc, il y a l'ensemble de base qui s'appelle le Retail Set sur Kickstarter, qui est vraiment le jeu qui va être disponible au commerce de détail par la suite, qui va vous coûter 69$ US quand même, 93 canadiens. Ou vous avez la version premium, qui est une version de luxe, qui va vous coûter 99$ US, 133$ canadiens environ. Mais vraiment, l'édition de luxe ajoute déjà un très beau jeu, ajoute une boîte encore plus superbe, des amulettes en métal, un système avec des aimants pour que les pièces tiennent bien sur le jardin au-dessus du temple, des pyramides aussi en couleur. Donc vraiment, là, vraiment un ensemble de matériel de qualité encore plus impressionnant. Donc, si vous aimez vraiment Cléopâtre et la Société des Architectes, c'est vraiment l'édition ultime du jeu qui est disponible par là. Donc, vraiment une campagne à regarder. On est déjà à 283 000 $ de ramasser sur un objectif de 60 000. Ça va être en canadien quand je parle des dollars ramassés parce que Kickstarter fait la conversion automatique quand je regarde les campagnes. On a déjà dépassé plus de 2 000 backers. Il vous reste 13 jours pour participer à Cléopâtre et la Société des Architectes, qui est vraiment une très bonne option si vous cherchez soit à avoir une meilleure édition si vous l'avez déjà ou si vous voulez découvrir ce jeu-là. Deuxième campagne que j'ai trouvée très intéressante, c'est Clinique en édition de luxe, encore une fois, qui est un jeu qui a été créé par Alban Viard et avec l'art qui a été créé par Ian O'Toole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ian O'Toole, c'est quand même un des grands artistes présentement dans le marché du jeu de société. C'est vraiment, les jeux visuellement sont toujours superbes lorsqu'il en fait partie. Dans Clinique, on gérera une clinique médicale, vous l'aurez compris, et vraiment une gestion de ce qui se passe de A à Z dans une clinique médicale, qui est un jeu un peu plus complet, un peu plus complexe aussi que quelque chose comme Dice Hospital qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez pouvoir vraiment là, vivre ce que c'est de gérer un hôpital à travers un jeu de société. Dans la version Kickstarter, dans cette nouvelle édition, il y a une extension aussi qui regroupe en fait toutes les mini-extensions qui étaient sorties dans le passé pour le jeu. Donc, si vous voulez embarquer sur Clinique, vous allez avoir donc la version de base du jeu. Donc, en fait, c'est la version de luxe, mais seulement le jeu sans l'extension qui va vous coûter 59$ US ou 79$ canadiens. Ou si vous voulez la de luxe avec les extensions, vous allez devoir débourser 99$ US ou 133$ canadiens pour avoir les deux versions de Clinique. C'est sorti prévu pour décembre 2019 de ce côté-là. On en est à 207 000 $ de ramasser sur un 40 000 initial, donc 5 fois déjà l'objectif, 1650 personnes, et il vous reste 17 jours pour embarquer. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous donner la livraison prévue. J'ai bien dit prévue parce que c'est très très rare. C'est pas très très rare, mais je dirais que c'est 60% selon moi, en tout cas de mon vécu, des campagnes qui dépassent leur date. Pour Cléopâtre, on vise mars 2020 pour la sortie du jeu et la remise des récompenses à ceux qui auront embarqué. La troisième idée campagne de la semaine, celle-là, je la trouve hyper intéressante, c'est Trick Shot. C'est un jeu de hockey sur glace qui est visuellement superbe. On y va avec des figurines. Vous allez voir, vous pouvez vous le procurer en version peinte ou non peinte, selon ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a une équipe bleue, une équipe rouge. Et c'est vraiment un jeu de figurines. Donc, on a une patinoire. Le plateau de jeu, c'est un dessin 2D d'une patinoire vue d'au-dessus. Et vous recevez avec le jeu, dans le fond, 12 figurines, 6 par équipe, 3 attaquants, 2 défenseurs, 1 gardien. Mélange de jeux de cartes, jeux de dés, qui a l'air extrêmement intéressant. Donc, évidemment, vous allez pouvoir faire des passes, lancer, essayer de faire l'arrêt. Vraiment une très belle idée, je pense, qui a l'air un peu plus dynamique que certains autres jeux de hockey que j'ai pu essayer dans le passé. Deux versions différentes, comme on le disait tout à l'heure. Version de base pour $59 US, qui va vous offrir, dans le fond, les figurines non peintes. Et sinon, vous pouvez y aller pour $79 US, 116 canadiens, pour avoir les figurines pré-peintes. Et je trouve qu'ils valent la peine, honnêtement. Souvent, c'est beaucoup plus cher que ça pour avoir l'option peinturée. Là, je pense que le $20 vaut quand même la peine pour se procurer cette édition-là du jeu. Il y a déjà des extras qui sont sortis, les fameux add-ons sur Kickstarter, qui vous font dépenser un peu plus une fois que la campagne est terminée. On peut se procurer $5 pour un ensemble de dés et on peut aussi payer pour un ensemble en néoprène, un tableau, une patinoire en néoprène au lieu d'un plateau de jeu normal pour $25 US, qui est les deux nouveaux extras qui sont sortis dans la dernière mise à jour. Donc, Trickshot, très intéressant de ce côté-là. On en est présentement à ce moment-ci à $136,000 de ramassé sur une demande initiale de 20 000, donc plus de 6 fois l'objectif initial. Encore là, autour de 1400 personnes qui ont backé à ce moment-ci, 17 jours à faire, et vous pouvez vous attendre à recevoir peut-être le jeu vers mars 2020 si tout va bien. Donc, on est dans le magasinage pour l'an prochain. Ça fait un petit bout d'ailleurs sur Kickstarter qu'on en est là, à l'exception en fait de quelques campagnes. Le dernier dans mon top tier du mois, deux semaines plutôt, c'est Space Race, qui est un jeu de course vers l'espace, jeu de construction de engine building, construction de moteurs. Avec un style vraiment superbe, là, on utilise l'approche un peu des plans, des blue plans, comme on dit, ou les plans bleus, qui vous permet dans le fond de voir une belle représentation de ce qu'est le projet d'aller vers l'espace. Donc un jeu de cartes qui vous permet de construire votre engin. Vous avez donc support de 1 à 4 joueurs avec 5 joueurs avec la version Deluxe. Vraiment un superbe jeu, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un beau résultat visuel et une mécanique de jeu qui semble très intéressante. Il y a deux versions disponibles, donc il y a la version de base qui vous donne dans le fond le jeu et les objectifs supplémentaires qui va vous coûter 40 € dans ce cas-là, donc environ $60 canadiens. Sinon, la version Deluxe va se détailler pour 59 € ou $89 canadiens. Ça va vous donner donc le jeu de base, les objectifs supplémentaires, les stretch goals. Vous allez aussi avoir l'expansion avec les fusées qui comprend 5 super miniatures de fusées, l'extension pour le 5e joueur et tous les objectifs supplémentaires pour cette extension-là. Donc, c'est vraiment les 4 campagnes qui ont retenu le plus mon attention au niveau des grosses sorties cette semaine. Sinon, si on s'en va du côté des extensions ou des accessoires, le premier qui retient l'attention de bien des gens, c'est The Manhattan Project Energy Empire, l'expansion Cold War. Je vais être transparent avec vous, je ne connais pas du tout cette ligne de jeu-là de Manhattan Project, mais il y a bien des gens qui en sont fans. Et donc, cette nouvelle extension-là, Cold War, s'ajoute à la version Energy Empire du jeu. Il y a plusieurs versions, plusieurs éditions différentes, plusieurs gammes de produits. Donc, de ce côté-là, vous pourrez vous procurer l'expansion seulement pour $25 US ou $34 canadiens. Et sinon, vous pouvez avoir aussi avec le jeu de base, donc les deux ensemble. C'est souvent une bonne façon de se rattraper sur certaines séries de jeux. Vous allez pouvoir vous procurer ça pour $65 US de ce côté-là. Tout ça, c'est prévu pour une sortie en novembre 2019. Donc, celui-là, on vise la fin de l'année. C'est assez rare que ça arrive avant la fin de l'année habituellement, mais on ne sait jamais. On est à $80,000 de ramasser sur un objectif de 11, donc près de 8 fois déjà les résultats, avec 1600 backers déjà. Donc, vous voyez, on se tient ces temps-ci, on se tient autour de ça, là, aux alentours de entre 1500 et 2000 backers pour les campagnes. Il n'y a pas eu d'énormes campagnes dans les deux dernières semaines. On doit remonter à Bloodborne, qui est peut-être autour de ça, mais qui se terminait trop vite au moment d'enregistrer ce podcast-là. C'est pour ça que je ne l'avais pas inclus. Le deuxième, l'autre extension qui a retenu l'attention de bien des gens, c'est The Island of Eldorado, l'extension Revanche. Donc, c'est un jeu qui a été sorti sur Kickstarter l'an dernier, qui en est déjà sa deuxième extension, qui est supposée être la dernière. Donc, on voit que ça va vite de ce côté-là, mais ils ont livré à temps et même en avance dans la dernière campagne. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de se permettre d'aller aussi vite. Vraiment un produit de qualité. C'est un des plus beaux jeux de société que j'ai pu voir. Le premier Island of Eldorado et l'extension rajoute encore un peu plus de beauté visuelle. La deuxième et celle-ci. Donc, la deuxième, c'était les voleurs. Et là, l'extension Revanche qui permet de jouer en coopératif. Donc, vraiment, il y a plusieurs éléments, mais l'événement principal, c'est pouvoir jouer de façon coopérative au jeu, ce qui n'était pas disponible avant. Avant, c'était soit en équipe ou en compétitif. Et là, on a vraiment un mode complètement coopératif qui s'ajoute. Il y a aussi une nouvelle boîte qui est disponible qui vous permet de stocker tout ça dans la même boîte. Donc, le jeu de base et les deux extensions dans une superbe nouvelle boîte avec des traits ou des cabarets qui sont disponibles après ça pendant le jeu pour stocker les jetons, etc. Donc, si vous voulez vous procurer ça, l'extension avec la nouvelle boîte va vous coûter 55$ US ou 74$ canadiens, disponible, sortie visée mars 2020. Pas mal sûr qu'ils vont y arriver avant, les connaissants. Et sinon, si vous voulez vous procurer tout, dans le fond, ce qui a été sorti à date, donc le jeu de base, les deux extensions, la nouvelle boîte, le gros kit, ça va vous coûter 125$ US ou 168$ canadiens pour les trois éléments de très belle qualité. De ce côté-là, au niveau des objectifs, on en est à 322 000 sur 67 000 visés. Donc, c'est une belle récolte, là, presque un tiers de million canadien déjà de ramassé. Et on est né à 3400 backers. Donc, ça va très bien de ce côté-là. 13 jours restants à la campagne si vous avez le goût d'embarquer. Quand je dis 13 jours, évidemment, c'est en date du 13 mai au moment de l'enregistrement. C'est vrai que j'aurais dû le préciser au début, selon la date à laquelle on va le sortir. Ça va être un petit peu plus, mais je me suis assuré qu'il y avait assez de jours pour toutes les campagnes dont je parlais, pour pas vous parler d'une campagne qui se terminait le lendemain de l'enregistrement, puis que vous n'ayez pas eu le temps de la backer si vous en aviez envie. Sinon, on s'en va du côté d'un petit accessoire de jeu qui est des tapis de jeu pour Gloomhaven. Trois formats disponibles de ce côté-là pour la campagne. Donc, c'est vraiment... Gloomhaven, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de manipulation de matériel. On a les différentes cartes à placer des deux côtés du plateau, etc. Donc, c'est bien d'avoir un tapis de jeu qui est très bien conçu, qui va permettre aussi de tenir les cartes bien en place. Je pense que c'est un ajout intéressant à Gloomhaven de ce côté-là. Donc, du côté de cette campagne-là, vous pouvez vous procurer deux tapis pour 35$ US en petit format. Et sinon, si vous y allez pour plus de tapis, ça monte jusqu'à 79 pour 4 tapis médiums, 79$ canadiens de ce côté-là. Donc, désolé, c'est une campagne qui est donc originaire du Canada. Je vous dis de où? C'est Mississauga, donc c'est près de Toronto de ce côté-là. C'est les gens de Crafting Kingdoms qui en sont leur première campagne. Et oui, c'est important des fois de regarder le nombre de campagnes, les campagnes passées avant de backer quelque chose sur Kickstarter. Ils sont près de plus de 15 000$ canadiens de ramasser, 16 662 sur un objectif de 7 500. Et vous recevrez vos tapis aux alentours de août 2019 avec le succès de la campagne qui est maintenant assurée compte tenu du nombre de backers et des dollars ramassés. On s'en va du côté des mini-campagnes. Je vais passer moins de temps pour vous parler de celle-là. Je vais vous mettre les liens évidemment sur la page où va être publié le podcast sur Geekbécois. Mais de ce côté-là, quelques petites campagnes. Une qui est sortie aujourd'hui le 13 mai qui est Bytes. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est les gens de BoardGameTables.com qui viennent de sortir l'excellent On Tour qui est un jeu superbe. Roll and Write, très 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 bien réussi. La qualité est impressionnante de ce côté-là. Donc j'ai bien confiance que Bytes, leur nouveauté, va être intéressante. C'est une adaptation d'un jeu classique, un peu plus abstrait. Vous pouvez même vous rattraper si vous vouliez vous procurer On Tour, vous pouvez l'ajouter à votre commande de ce côté-là. Et c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux. Là, si vous voulez le jeu de base, on parle de 24$ US de ce côté-là. On est en financement, on a presque atteint l'objectif. On est à 80%, à peu près 13 000 sur 16 000 en date d'aujourd'hui. Sortie prévue janvier 2020 pour ce qui est de Bytes sur Kickstarter dès maintenant. Deux, trois autres petites campagnes qui ont retenu mon attention. Matryoshka, un petit jeu de collection d'ensemble qui utilise des poupées russes. Donc, je trouvais intéressant le style visuel. Un beau design visuel, simple mais efficace. Ils en sont à un peu plus de 100%. Donc, le projet est financé. C'est un projet qui vient de Rochester dans l'État de New York. Donc, un petit jeu très simple qui va vous coûter 16$ avec seulement un petit 6$ US de shipping. Donc, on n'est pas si mal de ce côté-là avec Matryoshka. Sinon, un autre qui a été très populaire, c'est Starving Artist qui a récolté déjà trois fois son objectif, donc 33 000 sur un objectif de 13 000. C'est une nouvelle édition pour un jeu qui avait bien réussi à sa première version et il comprend donc une deuxième impression du jeu et une extension 5 à 6 joueurs de ce côté-là pour Starving Artist que vous allez vous procurer avec l'expansion pour seulement 29$ US, donc c'est pas un gros investissement de ce côté-là, prévu sortie pour octobre 2019 pour Starving Artist. Et le dernier, c'est Crystallo. C'est un petit jeu solo qui a retenu mon attention. Donc, c'est un jeu de casse-tête, placement de tuiles ou placement de cartes dans ce cas-là, avec des cristaux. Donc, une petite campagne intéressante que je vous conseille d'aller jeter un œil. On parle de 15$ US pour une copie du jeu solo. C'est fun des fois d'en avoir 3-4 dans notre librairie. Ça arrive des soirs, on est tout seul, on veut essayer un petit jeu, on n'a personne avec qui jouer. Donc, c'est une belle façon de continuer de profiter de notre passe-temps préféré sans devoir se sortir un jeu trop long aussi. C'est fun d'avoir des petites options un peu rapides de ce côté-là. Sinon, j'ai dit que j'avais un watch-out pour cette semaine, une campagne à faire attention. C'est Ashes to Ashes qui vient d'une compagnie qui s'appelle Alter Ego Games en Italie. Puis on va en parler. On va parler de leur première campagne qui est Faceless. Puis honnêtement, ça a été une campagne qui a été gérée de façon très ordinaire. La campagne de Faceless. Et là, ils arrivent avec leur deuxième titre, Ashes to Ashes, qui est financé là, 57 000 sur un objectif de 42 000 $ canadiens. Jeu de figurines, mais honnêtement, de la façon qu'ils ont géré leur première campagne, je vous conseille fortement d'éviter ou de faire très attention. Donc, un backer averti en vaut deux. Je vous dis de faire attention un petit peu sur Ashes to Ashes. Vraiment, le Faceless, la campagne, des problèmes de qualité selon les critiques et aussi des gros problèmes de communication. Puis ça, je l'ai vu. On a caché de l'information au backer, on ne voulait pas donner l'info. Des problèmes de communication aussi, c'était pas évident. Donc, à faire attention, Ashes to Ashes. On s'en va maintenant vers le sujet spécial de la semaine où j'ai deux petits sujets en fait de ce côté-là. Le premier, c'est les droits d'auteur et je vous explique ce qui s'est passé si vous n'en avez pas entendu parler. Si vous suivez Kickstarter, vous l'avez sûrement vu, mais la semaine passée est sortie une campagne, début de la semaine, milieu de la semaine passée, qui s'appelait quelque chose comme Game of Thrones, The Card Game. J'ai plus le nom exact, puis la campagne a été retirée. Mais l'idée, c'est que quelqu'un s'est dit « je vais faire un jeu de cartes sur Game of Thrones ». Il dit même dans sa campagne initialement, j'ai parlé à un VP chez HBO et oui, j'ai les droits de faire le jeu. Ils m'ont dit qu'il faudrait juste que je paye pour un certain pourcentage et voici ma campagne. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Fantasy Flight, premièrement, qui a la licence illimitée sur Game of Thrones, sur la propriété, sur la plateforme de Game of Thrones. Donc, c'est les seuls qui peuvent sortir de ce côté-là des versions jeux de société des jeux. Et en plus, c'est aussi, tu peux pas, faut que tu t'attaches pour avoir les droits d'auteur avant de sortir ta campagne sur Kickstarter. Les gars, évidemment, la technique dans ce temps-là, les gens vont backer pour 1$, ils vont aller commenter la campagne et poser les questions. La personne ne voulait pas trop avouer qu'il n'y avait pas les droits. C'était un peu bizarre comme discussion, un peu étrange dès le début. Aussi, les récompenses, il y avait des objets signés, tu pouvais payer 1000$ pour avoir le jeu, mais signé par les auteurs de la série, où jamais personne, évidemment, de la série ne s'était engagé à faire ça. Donc, tout ça, ça sonnait extrêmement bizarre. En plus, le design du jeu était vraiment affreux, là. Il n'y avait pas de travail de fait au niveau design, donc c'était drôle de situation. En plus, c'est là que je disais tantôt que ça avait vraiment mal viré. À mesure dans les commentaires, la situation s'envenimait entre les backers ou les faux backers et le créateur de la série, le créateur de la campagne. Il s'est passé un truc avec un vidéo live sur Twitch, si je ne me trompe pas, où on entend le type et ça glace le sang. Si vous ne l'avez pas entendu, ça fait honnêtement, c'est assez frappant. Où le gars crie après ses enfants, crie après sa femme. Les backers ont décidé d'envoyer le Child Protection Services, l'espèce de DPJ aux États-Unis, pour aller valider de ce côté-là ce qui se passait dans la maison. Le gars s'est sauvé avec les enfants pour éviter le Protecting Services. Vraiment une situation horrible. Heureusement, là, les enfants sont hors de danger. Tout semble beau. Est-ce que c'était exagéré? Je sais pas, là, mais vraiment une situation complètement horrible qui s'est passée de ce côté-là. Le gars est ressorti sur Indiegogo avec une campagne. Il s'est réessayé sur Kickstarter sous un autre nom. Le vendredi, je pense, la dernière journée de la semaine, il a fait une nouvelle tentative pour sortir sa campagne sous le nom de sa femme. Mais elle a changé de nom. Le compte, c'est vraiment une histoire horrible. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut avoir les droits d'auteur. C'est la première chose. C'est pas la première campagne qu'on va faire ça. Il y en a eu d'autres, plusieurs autres, qui sont sortis sans les droits d'auteur de l'élément dont ils voulaient faire. Puis ça fonctionne pas. Faut l'avoir. Faut être capable d'avoir les droits avant de commencer. Une histoire terrible. Si vous voulez voir Reddit, tout est là sur Reddit pour voir les détails de cette campagne de Game of Thrones. Et ça l'a même donné droit à un jeu, à une nouvelle campagne Kickstarter. Il y a quelqu'un qui a dit « Bon, mais moi, je vais faire un jeu avec ça. » Je vais faire Stop Danny P, c'est le nom du créateur de la première campagne de board game. Donc, il a voulu tourner ça un peu à la blague, mais c'est plus ou moins réussi comme campagne en plus. Vous pourrez aller voir si vous voulez, je vais mettre le lien. De toute façon, je pense pas que ça se finance. Là, on est à 572$ sur le 2000 quelque chose. Mais le gars, de toute façon, c'était plus pour faire rire les gens. Mais je suis pas sûr que c'est de l'humour très, très réussi de ce côté-là, mais quand même. Parlant de campagne un peu bizarre au niveau des... pas vraiment des droits d'auteur, une situation un petit peu différente, mais qui s'y rapproche quand même. C'est une compagnie, malheureusement, de Hamilton au Canada qui a sorti sa campagne la semaine passée qui s'appelle Villainous the Card Game. Donc, ben, premièrement, en plus, il y avait une faute d'orthographe, c'était Villainous the Card Game quand ils ont sorti la campagne. Mais ce qui frappe là-dedans, c'est que Disney a publié un jeu l'an dernier qui est extrêmement populaire chez les amateurs de jeux de société qui s'appelle Villainous et c'est un jeu de cartes. Et dans le fond, on n'a pas cru bon de renommer le jeu qui est un espèce de clone plutôt moyen et même, je dirais, vraiment limité de Cards Against Humanity. Et on n'a pas cru bon de le renommer, trouver un autre synonyme de vilain pour être capable de faire différent du jeu de Disney. Donc, c'est vraiment un peu décevant de voir ces limites-là dans les campagnes qu'on aurait pu peut-être réussir la campagne si on n'avait pas ce problème-là. Évidemment, même chose, les backers ont commenté de ce côté-là, manque de réponse aux commentaires. Malheureusement, c'est un peu décevant de ce côté-là. Une autre campagne qui ira nulle part parce qu'on n'était pas assez préparé. Et tu sais, si on veut faire un jeu de société, il me semble qu'il faut avoir vu le marché, il faut être prêt à voir c'est quoi une campagne de qualité pour réussir parce qu'il y en a tellement, il y a des mini de campagnes. Je vous parle à chaque semaine, je vais vous parler à peu près d'une vingtaine de campagnes au maximum à chaque deux semaines et je fais une épuration, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est hallucinant, donc il faut se démarquer par la qualité principalement, c'est l'élément principal. Puis c'était pas là du tout pour Villainous en plus d'avoir... des fautes d'orthographe, pris le nom d'un autre jeu, etc. C'est vraiment quelque chose de pas très réussi. Sinon, au niveau des sujets spéciaux, je voulais aussi vous parler des mises à jour, parce que s'il y a une chose qui m'énerve, moi, comme backer, c'est le manque de communication de la campagne une fois que la campagne est finie. Pendant la campagne, c'est facile. Ils nous font une mise à jour des fois par jour, à chaque stretch goal. Il y a une stratégie, ils sont prêts, ils sont crinqués. Les gens, ils vont faire... donc, si la campagne dure 30 jours, ils vont se préparer au moins 30 mises à jour. On va avoir vraiment une communication qui est parfaite. La campagne se finance... c'est pas si pire. Souvent, il va avoir une pause, c'est correct, les gens vont se reposer, c'est très demandant de lancer un projet sur Kickstarter. Et après ça, c'est un peu le silence radio. Il y a quelques mises à jour, puis après ça, aussitôt qu'on se rapproche de la date de lancement, puis qu'on n'est pas prêt, les communications, ça se passe. J'ai vu ça dans tellement de projets récemment, ça devient énervant au niveau de la communication. On a l'impression que la compagnie, les gens sont partis avec l'argent, que le projet se livrera jamais. Souvent, c'est pas vrai. Souvent, les gens travaillent. Ils travaillent très fort. C'est un deuxième emploi pour eux parce qu'ils ont besoin d'un emploi normal, évidemment. Ils vivent pas de ça. Des fois, les projets, c'est pas facile. Il y a rien de plus difficile que de mettre... bon, en tout cas, c'est très difficile de mettre à jour, de mettre à la vie un projet comme ça sur Kickstarter. Et c'est triste de voir que c'est par la communication qu'on échoue. Et je le vois, là... Je pense entre autres à Goblin, je vous me trompe dans le nom, mais c'est Goblin Grapple, qui est une campagne que j'ai financée l'an dernier, qui était prévue pour décembre 2018, qui est en retard. C'est pas une surprise, on en est à déjà 5 mois de retard, on va probablement rapprocher d'un an. Une fois que le jeu sera livré, on va s'approcher probablement de l'année de retard, mais c'est pas grave, des jeux à jouer, il y en a une pile qui m'attend, c'est comme ça pour plusieurs amateurs de jeux. Donc c'est pas vraiment le retard qui nous dérange, mais la dernière mise à jour de l'équipe date déjà du 25 mars, alors qu'on est en retard. La précédente datait de janvier. Donc le niveau de communication n'est pas bon. Oui, on est en retard, mais on devrait une fois par semaine, une fois par deux semaines, à la limite une fois par mois, si jamais on nous dit que ça va être une fois par mois, nous donner une mise à jour. On devrait jamais être deux mois ou presque deux mois dans ce cas-là pour Goblin Grapple sans mise à jour qui est donnée aux backers, surtout quand la campagne va mal. Des fois, on répond même pas aux commentaires. C'est pas facile de faire comprendre ça et c'est tellement important. Il y avait une campagne à laquelle j'ai participé qui s'appelait Super Camelot, qui est gérée par les gens de Lynn Vendor, que justement je ferai plus à faire selon moi dans le futur. Et encore là, problème de communication, on nous dit que le jeu va être prêt pour décembre, c'était pas le cas, de toute façon c'était impossible, c'est une campagne ils nous promettaient le jeu pour 3 mois plus tard, on savait que ça arriverait pas, mais... silence radio, plus de communication pendant des mois ou à peu près. Et là, maintenant, on a droit à une mise à jour par semaine. Et c'est, tu vois, j'ai plus confiance. Déjà là, bon, dans ce cas-là, je suis brûlé, je pense pas retourner avec le studio, mais c'est déjà plus intéressant. Même s'il se passe rien, juste nous dire, les choses sont normales et je pense qu'il y a plusieurs campagnes qui mériteraient d'apprendre ça et de faire ça de ce côté-là. Donc, ça fait que malheureusement, la prochaine campagne, puis on en parlait pour The Faceless, hein, donc pour HS to HS tout à l'heure, la prochaine campagne, ben si la communication n'est pas bonne, je ne serai pas là pour la prochaine, je ne partagerai pas. Puis je vais espérer que le jeu sorte au retail si c'est un jeu qui m'intéresse, mais je ne serai pas là pour backer ou quand la communication n'est pas là. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est un des exemples que j'avais de sujet qui était vraiment récurrent au niveau des campagnes. Je termine rapidement avec quelques campagnes qui sont arrivées au courant des derniers mois ou des dernières semaines plutôt. Donc Tricky Tides, qui est un petit jeu de pick-up and delivery, donc de ramassage et de livraison, qui se fait avec donc dans l'eau avec des bateaux. Très beau matériel, vraiment j'ai été très satisfait de ce que j'ai reçu. Les bateaux ont des plateaux avec deux étages pour placer les cubes pour pas qu'ils se déplacent. Vraiment un matériel de belle qualité, très intéressant. Sinon, j'ai reçu aussi Dig, qui est un jeu qui vient de France, de chez Mangrove Games, qui est basé, si je ne me trompe pas, sur un jeu vidéo à la base. Et c'est la deuxième édition de cette sortie-là sur Kickstarter, avec la nouvelle extension Dragon qui rajoute encore plus au jeu. J'ai pas essayé encore, mais je vais vous en reparler quand j'aurai eu la chance de l'essayer de ce côté-là. Sinon, superbe réception avec Ancient World de Ryan Lockett, qui est vraiment un des créateurs que j'aime bien. Sur Kickstarter, en fait dans l'univers des jeux de société, qui sort donc une réédition d'un de ses plus vieux jeux, avec des nouvelles mécaniques de jeu, qui est vraiment avec un matériel de qualité. Vous avez des jetons de métal qui sont inclus aussi dans la boîte, de la monnaie en métal, et vous avez de ce côté-là aussi vraiment l'art de Ryan Lockett qui est superbe. Le gars est vraiment talentueux de plusieurs façons, donc encore là, superbe édition Kickstarter, des jetons plus gros en bois, etc. Donc vraiment une belle surprise de ce côté-là, rien à dire sur la qualité de ce qui m'a été livré. Je termine, comme j'en parlais tout à l'heure, avec The Faceless, donc qui est un jeu avec des aimants que j'ai pas encore eu la chance non plus d'essayer. Puis ça va être comme ça, je vous mens pas, quand les jeux arrivent sur Kickstarter, malheureusement c'est pas les premiers sur la table. On fait l'ouverture, je prépare les composants, je lis les règles, ça prend un petit bout des fois avant d'arriver dans mes groupes de jeux. Donc le but dans l'émission, c'est plutôt de vous parler de la qualité des composantes reçues, s'il y a des bonnes ou des mauvaises surprises de ce côté-là, ou si des fois des projets qui sont en retard qui finissent par arriver, on en parlera. Donc The Faceless, donc je vous disais tantôt, problème de communication dans toute la campagne, finalement est arrivé plusieurs mois en retard la semaine dernière. Il y avait un kit pour rendre le jeu phosphorescent qui était livré avec le jeu. C'est arrivé dans la boîte, c'est des feuilles d'étiquette. Ils sont toutes imprimés, donc des espèces de collants transparents avec du vert phosphorescent. Ils sont pas la bonne grosseur, il n'y a rien qui fit sur la boîte, c'est supposé s'ajouter, c'est pas clair, il n'y a pas d'instructions. Vraiment décevant de ce côté-là. Sinon, pour le reste, par exemple, je trouve que les gens sont un peu arides. Là. J'ai vu des cartes tout à fait correctes. Il y a des gens qui parlaient de problèmes d'impression. De mon côté, j'ai pas vécu ça. Les figurines sont belles aussi. Je sais qu'il y a des problèmes de mécanique et des problèmes aussi de traduction là, qui semblent être assez importantes. Donc, pour l'instant, je vous dirais que je suis pas trop mal. Je m'attendais à pire, avoir lu les commentaires extrêmement négatifs des gens, mais au moins c'est arrivé, parce que dans des cas, des fois, il y a des campagnes qui finissent par ne jamais aboutir. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour ce premier épisode sur Kickstarter, sur les jeux de société Kickstarter sur Geekbécois. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à en faire part, soit par notre page Facebook de Geekbécois. Vous pouvez me contacter sinon via aussi les commentaires sur cet article-là. Et j'espère qu'on pourra s'en reparler dans 2 semaines. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée ou de journée. Thank you.